C'est beau, ça fait qu'on commence, commence notre étude. Bienvenue à tous. On est bien heureux que tout le monde soit là, même Nelson et Lucie. Ils n'ont pas encore commencé de sucre. Ça fait qu'on a le privilège de les avoir avec nous encore ce soir. Ça fait que si vous voulez, on va commencer avec on est dans le chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens. On avait commencé la semaine passée avec les versets 1 à 16, puis comme on a dit, c'était de marcher d'une manière digne de la vocation, c'est-à-dire dans l'unité. Plus tard, on regardera dans le chapitre 4, 17, il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens. Dans le chapitre 5, au verset 2, il dit, il faut marcher dans l'amour. Dans le chapitre 5, au verset 8, il dit, marcher comme des enfants de lumière. Dans le chapitre 5, au verset 15, il dit de se conduire ou de marcher avec circonspection. Mais on va continuer. On avait commencé dans la section de l'unité, marcher selon la vocation, c'est-à-dire dans l'unité de l'esprit. On avait regardé ça la semaine passée, mais on va aller encore là-dedans ce soir pour on va regarder les éléments de l'unité qu'on a dans, il y a sept éléments qu'on voit, puis on va regarder encore un peu plus là-dedans dans l'unité de l'esprit. C'est qu'on va lire à partir du chapitre 4, verset 1. On va lire encore jusqu'au verset 16. Donc, Éphésiens 4, verset 1 à 16. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Seigneur va bénir la lecture de sa parole ensemble. On va demander son aide encore une fois. Seigneur notre Dieu, on est heureux d'être ensemble ce soir, réunis autour de ta parole. On te demande, Seigneur, que tu puisses encore nous enseigner tes voies. Puis, Seigneur, c'est toi qui es le chef de ton Église, c'est toi qui diriges ton Église. Oui, Seigneur, que cette Église puisse être vraiment à l'image de ce que tu as voulu qu'elle soit, qu'on puisse vraiment être à l'écoute de ta parole pour non pas faire ce qui nous plaît, mais faire ce qui te plaît à toi, Seigneur, pour te glorifier et t'honorer. On te remercie pour tout cela. Merci pour tous ceux qui sont là ce soir. On te demande de bénir chacun au nom et pour la gloire de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. OK, ça fait que ce soir, on va regarder, on va repasser encore par-dessus dans ces versets-là, puis on va ressortir des choses par rapport surtout à les éléments de cette unité-là. Puis ensuite de ça, ben, les dons qu'on voit, la liste de dons ici qu'on voit, qui est en rapport avec l'Église universelle plutôt que l'Église locale. Donc, ce qu'on veut parler, c'est la différence. Il y a une différence entre l'unité de l'esprit et l'œcuménisme, qui est très populaire aujourd'hui. On sait que l'œcuménisme a commencé. Ça a commencé avec l'Église catholique dans les années 60. Puis maintenant, ça nous rejoint, ça arrive à nous autres maintenant. Mais il y a une différence entre l'unité de l'esprit et l'œcuménisme. C'est ce qu'on va regarder. L'œcuménisme, c'est que chacun mette de l'eau dans son vin pour marcher ensemble. Donc, on se dit, OK, On va être d'accord d'être en désaccord, puis on va mettre un peu d'eau dans notre vin, puis on va s'ajuster les uns avec les autres pour que ça puisse fonctionner ensemble. Mais l'unité de l'esprit, c'est différent. L'œcuménisme, ce n'est pas l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit, c'est différent. C'est de rejeter tout ce qui nous divise pour s'unir à Christ. Puis on voit dans le passage, là, il parle beaucoup de Christ étant la tête ou de l'unité ou de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, afin de ne pas être emporté à tout vent de doctrine, mais de vraiment grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Si on est honnête, en regardant l'Église aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est un état lamentable. L'Église est dans un état lamentable quand on regarde au désir de son chef. Alors, si le Seigneur est le chef de l'Église, c'est Dieu qui l'a donné comme chef suprême à son Église. Mais qu'est-ce que le Seigneur dirait de l'état de l'Église aujourd'hui dans toutes ces divisions-là? C'est que dans le verset 3, voyez-vous, il dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc, Paul, en écrivant son épître, ben, c'est sûr qu'il nous donne l'instruction du Seigneur ici, là. Vous efforçant de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc, on a un effort à faire, c'est ce qu'il nous dit ici. Dans le chapitre 17 de Jean, au verset 11, il dit, je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde, en parlant de ses disciples ou l'Église, il dit, ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Donc, on voit ici le désir du Seigneur, garde-les en ton nom. Si le Seigneur Jésus était sur la terre présentement, puis il fonctionnerait comme le chef de l'Église, ben, pensez-vous qu'on ne serait pas un? Mais il est dans le ciel. Puis il doit fonctionner comme le chef de l'Église. Donc, il faut reconnaître son autorité, il faut reconnaître sa direction, il faut reconnaître son désir pour qu'on puisse être ce que lui veut être, même s'il est absent, même s'il est dans le ciel, mais il veut quand même qu'on soit un. Mais si on se demande, c'est quoi qui empêche l'Église d'être un aujourd'hui? Ben, c'est certain, ce qui nous divise, c'est ce qui vient de l'homme. Ça, c'est certain qu'on peut voir que ce qui fait qu'on est divisé en tant qu'Église, c'est ce qui vient de l'homme qui nous divise. On va aller dans 1 Corinthiens 1. Paul, ici, il parle aux Corinthiens, puis il les exhorte aussi que de la même façon, qu'ils soient un. Mais dans 1 Corinthiens 1, au verset 10 à 13, il dit, je vous exhorte, encore une fois, comme il dit dans Éphésiens, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, son point d'appui pour son exhortation, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. À tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus, puis ainsi de suite. Mais ici, il les reprend, il les exhorte à tenir un même langage, à être tous unis. Mais une fois, j'avais parlé sur ce sujet-là, puis c'était à Chéticamp, on avait parlé, puis il y avait des gens qui faisaient partie de différentes dénominations, puis on avait eu une réunion ensemble, puis j'avais parlé sur ce sujet-là. Puis tout de suite, ils associaient ça. Moi, je n'avais pas parlé de dénomination, mais eux, ils associaient ça à des dénominations. C'est qu'il y a des gens qui étaient là, qui étaient des chrétiens, mais ils étaient divisés dans différents endroits. Puis s'ils avaient pu être ensemble, ça aurait été mieux, mais c'est certain, comme on a dit, c'était pas une question de garder nos différends puis être sous le même toit, mais c'était vraiment de rejeter ce qui nous divise pour recevoir, être unis dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Puis même, il faut faire attention de pas, même des fois, on va dire on est des frères. Mais moi, je suis contre le fait d'utiliser le terme frère avec un F majuscule. C'est pas des frères, c'est des gens qui sont sauvés, qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. On parle ici de frères et sœurs. C'est des gens, tous ceux qui sont sauvés par la grâce de Dieu, ben, sont tous frères. parce qu'on est unis dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est important. Quelqu'un avait dit une fois, il avait dit, si vous autres, les frères, vous ne faites pas quelque chose, vous allez disparaître. Ben, moi, j'ai dit, s'il faut disparaître et qu'on disparaisse, on ne tient pas à une bannière, on ne défend pas une bannière, mais vraiment, ce qu'on veut, c'est défendre l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ dans un endroit, c'est-à-dire quand on parle d'une église locale, que ça puisse être une église qui soit unie. Mais c'est de la protéger contre les influences extérieures qui viennent des hommes. Puis ça, c'est une réalité. Il faut protéger l'unité, de garder, comme il dit, de s'efforcer de garder l'unité de l'esprit, puis de ne pas laisser les choses qui nous, les choses des hommes qui vont nous diviser, ne pas laisser ça entrer. C'est certain qu'on ne peut pas faire rien pour les autres, mais nous autres, on doit se juger devant le Seigneur, on doit se regarder devant le Seigneur pour pas qu'il y ait de rien qui vienne diviser le corps de Christ. À Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, on avait commencé un groupe en français. C'était des gens qui venaient du Québec pour la plupart, qui étaient là. Puis on se réunissait en français. Puis au début, ben, c'était pour prêcher l'Évangile parce que la plupart n'étaient pas sauvés. Il y avait quelques-uns qui étaient sauvés. Mais ça, puis on s'est réunis comme ça pendant 8 ans. Mais à un moment donné, il y avait des gens qui étaient dans d'autres groupes qui étaient francophones, puis ils entendaient parler qu'il y avait un groupe de francophones, puis ils venaient nous voir. Puis quand ils venaient nous voir, ils disaient, hey, c'est le fun, on devrait en partir un, nous autres aussi. Puis moi, je me disais, mais pourquoi en partir un autre? Pourquoi pas construire celui-là? On avait besoin d'aide, on aurait pu utiliser les gens qui auraient pu nous aider, mais c'est parce qu'il y avait des idées différentes qu'ils voulaient en partir un, mais je n'ai pas entendu qu'il n'y en avait jamais d'autres qui avaient parti un autre groupe. Mais moi, je me disais, mais on aurait bien apprécié de l'aide pour pouvoir être établi. Mais c'est parce qu'il y en voulait un selon leurs idées à eux. Mais dans 1 Corinthiens 3 et versets 3 à 17, donc 1 Corinthiens 3 et versets 3 à 17, on va lire ça ensemble, c'est encore. Paul disait ici, en effet, 1 Corinthiens 3, verset 3, il dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Là, il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Donc c'est l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas prendre ça comme si c'est notre œuvre à nous. C'est l'œuvre de Dieu. On peut être un instrument que le Seigneur a utilisé pour son œuvre, mais ce n'est pas nous autres l'œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur Jésus qui est faite dans un endroit. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Puis, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu. Donc, c'est important, c'est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un, ça c'est vraiment sérieux ici, le verset 17, il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc, c'est important, vous voyez, c'est l'œuvre du Seigneur. Il y a des serviteurs qui travaillent à l'œuvre du Seigneur pour. Puis, quand on parle ici, on ne parle pas nécessairement de ce qu'on appelle là, des ouvriers temps plein, parce qu'on est tous des ouvriers temps plein. Qu'on ait un emploi ou, puis, séculier, mais qu'on travaille tous. Vraiment, notre but dans la vie, c'est de travailler à l'œuvre du Seigneur. On est tous à temps plein à l'œuvre du Seigneur pour. Mais c'est l'œuvre du Seigneur. Puis faut pas, faut faire attention que ça soit pas, ça devienne pas notre œuvre à nous, là. Donc, l'Église locale doit être gardée précieusement contre les choses des hommes. C'est important. Puis, c'est ça. Puis aujourd'hui, on veut comme oublier les différences puis s'associer ensemble, mais c'est pas nécessairement comme ça qu'il faut. Il faut vraiment rejeter ce qui nous divise pour s'unir au Seigneur Jésus-Christ. L'unité de l'esprit, là, c'est de mettre de côté ce qui divise les idées d'homme pour se centrer sur la tête, comme au verset 15 à 16. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, ça, c'est important. Mais pourquoi? OK. Quand on regarde les éléments de cette unité-là, il y a sept éléments de l'unité qui nous sont nommés ici, là. Puis en les regardant, c'est sûr que dedans, c'est dans l'humilité, la douceur, la patience et l'amour. Puis comme 1 Pierre 5, 3 dit, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Dans Philippiens 2, 21, il dit, tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Donc, ça, c'est des avertissements que Paul y donne. C'est vraiment ce qui est important, c'est les intérêts du Seigneur Jésus-Christ. Mais des fois, on peut se demander où est le Seigneur Jésus dans l'Église? Il doit avoir la première place. Quand on se rend compte, est-ce que c'est lui qui a la place dominante? Est-ce qu'il y a la révérence devant sa présence? Est-ce qu'il y a l'obéissance à ses... Parce que des fois, il y a des choses qu'on n'aime pas tellement, puis on va faire ça à notre tête, on ne fera pas ça comme lui dit. Mais si on reconnaît vraiment qu'il est la tête du corps, peu importe ce qu'il nous demande, ses désirs sont des ordres. On dit ça des fois, hein? Si on aime quelqu'un, ses désirs sont des ordres. Mais si on aime le Seigneur Jésus, ses désirs seront des ordres. Mais comme on voit, il y a sept éléments ici qu'on voit dans l'unité. Puis c'est des choses, ça, qui ne peuvent pas changer. Ça, c'est fondamental. C'est des choses qu'on ne peut pas changer, puis qui ne peuvent pas changer, parce que c'est Dieu qui les a établies comme ça. Il dit, il y a un seul corps. Quand on parle de corps, on sait qu'on parle de l'Église. Mais si on parle de l'Église universelle, ben, il y a un seul corps. Il n'y a pas différentes églises. Aux yeux de Dieu, lui, son église, c'est un corps. C'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Ça, on peut pas changer cette situation-là. Ce n'est pas nous autres qui va pouvoir changer ça. C'est le Seigneur Jésus qui nous a formés dans un seul corps. Puis toute division de ce corps va briser l'unité de l'esprit. Puis, comme Paul avertissait les Corinthiens, là, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollo, moi je suis de Céphas. Puis aujourd'hui, on voit ça quand même, parce qu'il y a des grands noms des gens qui sont des enseignants, puis pas nécessairement des mauvais enseignants, mais d'autres, on va dire, ben moi je vais suivre lui, puis un autre, il va suivre l'autre. C'est pas un homme. Ceux qui enseignent la parole ne doivent pas attirer l'attention sur eux-mêmes, mais sur la parole de Dieu. Puis, comme le Seigneur a donné à chacun des dons, ben, on doit le faire pour attirer les gens vers le Seigneur Jésus-Christ, dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, puis pas les attirer vers nous-mêmes. Mais ça, c'est certain qu'il y a seulement un corps. C'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Puis, mais on doit vraiment travailler dans ce sens-là. Il y a aussi un seul esprit. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a plusieurs esprits, il y a un seul esprit. Comme il dit ici, un seul corps, un seul esprit. Puis l'esprit, ben, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit qui nous guide. Puis il est étroitement lié à la parole. Fait que c'est important dans notre façon d'agir, dans cette façon de fonctionner, qu'on soit fidèle aux instructions de la parole, puis pas décider qu'est-ce qui fait notre affaire, puis qu'est-ce qui fait pas notre affaire, mais on doit vraiment, le Saint-Esprit va toujours nous guider dans la parole de Dieu. Puis c'est sûr que le Saint-Esprit, son rôle, ce n'est pas, il ne parlera pas de lui-même, mais il va parler du Seigneur Jésus. Il va nous amener à connaître le Seigneur Jésus pour avancer dans sa connaissance. Dans Jean 15, 26, il dit, en parlant de l'Esprit, quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Un esprit qui nous détourne du Seigneur Jésus, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit, il va rendre témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean 16, 13, il dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc le Saint-Esprit, lui et nous, c'est sûr que l'influence du Saint-Esprit va nous emmener dans la vérité, dans la parole de Dieu, puis il va nous centrer sur la personne du Seigneur Jésus parce qu'il va rendre témoignage du Seigneur Jésus. Ça, c'est l'Esprit qui agit dans la liberté de la parole. Puis c'est comme j'ai dit, on prend la parole telle qu'elle est, sans la changer, sans excuser des choses qu'on ne veut pas obéir. Mais de vraiment, l'Esprit va nous conduire dans toute la vérité. Après, ensuite de ça, il y a un seul corps, un seul esprit, mais aussi, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Voyez-vous, encore une fois, est-ce qu'il y a deux espérances? Est-ce qu'il y en a trois? Est-ce qu'il y en a quatre? Non, il y a une seule espérance. Voyez-vous, ces choses-là qu'on lit ici, là, c'est des choses que nous, c'était hors de notre portée. On fait juste le reconnaître. C'est Dieu qui a établi ces choses-là, puis c'est hors de notre portée, on ne peut pas changer ça. Il y a une seule espérance, puis il y a pas différentes espérances avec différents groupes, là. Mais il va falloir qu'on soit un au ciel. Si on ne réussit pas à atteindre l'unité ou garder l'unité sur la terre, c'est certain qu'au ciel, il va avoir l'unité. Parce que non, puis merci Seigneur, on va être changé. Puis ce qui est en moi qui empêche cette unité-là, il va être changé. C'est que c'est important ici, il va falloir qu'on soit un au ciel. Moi, je dis, les différences que les hommes apportent dans l'Église, là, ça passera pas les nuages. Quand on va être enlevé à la rencontre du Seigneur sur la nuée, ça passera pas les nuages. Des fois, il y en a qui disent, ben là, il va y avoir une telle dénomination dans un coin. Non, non, on va être honteux de ces choses-là. Quand on va être au ciel, on va être honteux de ces choses-là parce que ça passera pas les nuages. Le Seigneur, il tolérera pas ça dans son ciel. C'est un petit peu comme une famille hein, qui se divisera en groupes. Les parents vont dire non, 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 vous êtes tous nos enfants à part égale. Ça devrait être ça de toute façon. Mais ça passera pas les nuages. Mais c'est le Seigneur qui va retrancher à ce moment-là ce qui vient de l'homme qui a divisé son Église. Mais pourquoi qu'il ne le ferait pas maintenant? Il le ferait maintenant si on est à son écoute. Si on est vraiment à l'écoute du Seigneur, il va enlever ces différences-là. Puis, pour que la seule influence vienne de lui. On ne peut pas changer les autres, puis ce n'est pas à nous autres de changer les autres. Mais nous autres, on peut se juger devant le Seigneur. Puis on peut regarder, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma façon de penser, dans ma façon d'agir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui promouvoit la division dans l'Église? Puis s'il y en a, ben, on doit juger devant le Seigneur, puis laisser le Seigneur nous conduire. C'est important. L'espérance, c'est quoi? Ben, l'espérance, c'est la maison du Père. Comme le Seigneur Jésus a dit, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il n'y a pas d'autre espérance que ça. L'espérance, c'est d'être changé en un instant, en un clin d'œil, d'être enlevé à la rencontre du Seigneur sur la nuée. Puis être toujours avec le Seigneur, lui va nous introduire dans la maison du Père. Il dit, dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, il y a juste une seule espérance. C'est sûr qu'on va se rencontrer là-bas. Tous ceux qui sont sauvés par la grâce de Dieu, on va tous se rencontrer là, puis il n'y aura pas de différence. On va être un dans cette espérance-là, puis c'est le Seigneur qui va nous faire entrer dans cette espérance-là. Ensuite de ça, il nous dit à un seul Seigneur. Ben là, on peut-tu, il n'y a pas d'autres, il n'y a pas deux Seigneurs, il n'y a pas trois Seigneurs. Il y a un frère ici qui disait qu'une fois, il y a quelqu'un qui avait demandé, il dit, comment ça? Il dit, c'est qui est le bon Seigneur? Il y en a un là-bas, puis il y en a un autre là, puis il y en a un autre là. Il n'y a pas de problème à avoir différentes assemblées dans un endroit. Mais c'est le fait que il y a les différences qui ne sont pas la même chose, puis ça ne devrait pas être. Il peut y avoir plusieurs assemblées qui sont en communion avec le Seigneur. Mais s'il y a un seul Seigneur, ça veut dire que c'est lui qui contrôle. Dans Luc 6, 46, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est une chose de dire qu'il est Seigneur, mais de le laisser agir comme le Seigneur, c'est une autre sur ma personne, sur notre assemblée, sur l'Église qu'on fréquente. Je vais passer devant un bâtiment d'une église à un moment donné, puis à Miramichi, puis sur l'enseigne en avant, c'était marqué là où Jésus est Seigneur. Puis ça m'a fait réfléchir beaucoup. Parce que de dire, est-ce qu'il est vraiment Seigneur? Puis, je ne veux pas les juger, peut-être que oui, ça, c'est pas, je ne les connais pas. Mais ça m'a fait réfléchir sur nous autres, est-ce que le Seigneur est le Seigneur de notre assemblée où est-ce qu'on se réunit? Est-ce que c'est vraiment lui qui est l'autorité finale? Est-ce que c'est vraiment lui qui, peu importe ce qu'il va demander, son désir, on va le faire pour la gloire de son nom. Fait que c'est important, ça. Mais on voit aujourd'hui qu'il y a des choses dans le monde qui peuvent influencer l'Église. Puis surtout, dans les derniers temps, on dit que c'est l'Église de Laodicée. Laodicée, ça veut dire Laos, c'est le peuple, puis Dicée, c'est la règle du peuple. Puis est-ce qu'aujourd'hui, c'est la règle du peuple qui dirige l'Église? On fait ce que le peuple veut avoir, puis le peuple vient. Mais ça ne devrait pas être comme ça. C'est pas pour plaire au peuple, c'est pour plaire au Seigneur Jésus. Puis le peuple, ceux qui vont se venir, s'ils viennent pas en se soumettant au Seigneur Jésus, ben ça fonctionnera pas. Donc c'est important. Puis même aujourd'hui, on voit vraiment l'influence du féminisme dans le monde dans lequel on vit. Puis est-ce que le féminisme, c'est à se poser la question, est-ce que le féminisme a pris contrôle dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ? Parce qu'il y a des choses qu'on n'accepte pas, parce que ce n'est pas acceptable dans notre société. Même si c'est le désir du Seigneur, on prend ça, on dit, ah ben là, ça ne veut pas dire ça, c'était dans ce temps-là, c'était. Est-ce que c'est vraiment le féministe qui a pris l'autorité sur l'Église du Seigneur Jésus-Christ pour dire, ben nous autres, on ne fonctionne pas comme ça, puis on a toutes sortes d'excuses. On peut se convaincre dans nos excuses, mais est-ce que le Seigneur Jésus, lui, il est d'accord avec ce que nous autres on croit? Ben, c'est des questions à se poser, là, parce que toute autre pensée humaine qui vienne contrôler, prendre la place du Seigneur pour contrôler son Église. Quand on regarde de Philippiens 2, 9 à 11, c'est sûr qu'on voit ça comme Philippiens 2, 9 à 11, on voit ça comme. Un jour, tous les gens vont fléchir le genou devant le Seigneur Jésus. Mais qui dit, si c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est sûr qu'on regarde aux gens qui ne veulent pas reconnaître le Seigneur Jésus comme Seigneur. Puis les autres, ils disent, ils veulent faire leur vie à leur façon. Un jour, ils vont fléchir le genou devant le Seigneur Jésus. Mais nous, qui sommes ses enfants, on devrait avoir fléchi déjà le genou devant le Seigneur Jésus. On devrait continuer de fléchir le genou devant le Seigneur Jésus, puis de dire qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, parce que c'est le Père qui l'a donné comme chef suprême à son Église, puis il l'a mis comme la tête de son Église, puis nous, on doit se soumettre, on doit s'humilier devant lui, puis reconnaître son autorité en tout point sur nous, puis sur son Église aussi. Donc, il y a un seul Seigneur. Puis ensuite de ça, il y a une seule foi. Quand on parle de foi dans la parole de Dieu, des fois, c'est la foi personnelle qu'on met dans le Seigneur Jésus. On croit à son œuvre qu'il a accomplie pour être sauvé. Mais selon le contexte, on voit des fois que la foi, ce n'est pas nécessairement notre foi personnelle qu'on a placée dans le Seigneur Jésus pour être sauvé. Parce qu'il nous parle dans Jude 3, il dit, bien-aimé, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Donc, selon le contexte, on sait que ce n'est pas la foi personnelle en Jésus-Christ pour être sauvé, mais c'est la foi comme l'ensemble de l'enseignement du Nouveau Testament. C'est ça qui est la foi ici, là. Puis dans ce contexte-là aussi, quand il dit il y a une seule foi, c'est ça. Il y a un seul enseignement de la parole de Dieu concernant toutes les choses, que ce soit l'Église, que ce soit les doctrines, il y a un seul enseignement. Mais on est souvent divisé, là. Ça, c'est la doctrine chrétienne. Mais on sait que si on regarde aux théologiens, là, ben, les théologiens, là, c'est toute une confusion, là. Il y a de toutes sortes qui disent toutes sortes de choses. Puis si on s'arrête à ça, on va être dans la confusion. Mais il y a une seule foi qui a été livrée au saint, une fois pour toutes. Puis ça, on ne peut pas changer ça. C'est l'enseignement de la parole de Dieu. Puis il y a personne qui peut changer ça. C'est Dieu qui nous a donné cet enseignement-là dans sa parole. Il nous a donné son esprit pour le comprendre. Puis il y en a seulement une, il y a une seule foi. Ensuite de ça, il nous dit au verset une seule fois, un seul baptême. Encore une fois, le baptême, des fois, ça peut être il y a plusieurs baptêmes dans la parole de Dieu. On avait déjà regardé ça. Il y a plusieurs baptêmes. Mais de quel baptême est-il question ici? C'est le baptême de l'Esprit. Il y a un seul baptême. Ici, il est question du baptême de l'Esprit. Puis c'est quoi le but du baptême de l'Esprit? Pour certains, c'est d'avoir des manifestations ou c'est de parler en langue, baptême du Saint-Esprit pour parler en langue. Mais dans la parole de Dieu, le baptême du Saint-Esprit, c'est pas le but du baptême du Saint-Esprit, c'est de faire un. C'est de faire l'unité. Parce qu'il dit dans 1 Corinthiens 12, 13, nous avons tous en effet été baptisés. Donc tous ont tous été baptisés dans un seul esprit. Pourquoi? Pour, quand on a le mot pour, c'est la raison c'est le but de la chose. Donc pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc le baptême du Saint-Esprit, il y en a seulement un, qui était accompli historiquement le jour de la Pentecôte. Puis on vient au bénéfice, le moment où quelqu'un met sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ, il vient au bénéfice de ce baptême-là pour être formé dans le corps de Christ, dans un seul corps. Donc c'est un seul baptême. Puis ce baptême-là a enlevé toutes les différences. Pourquoi qu'on met des différences, nous autres? Ce baptême-là, il a tout enlevé les différences. Quand il dit dans Galates 3, 28, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Ça, c'est le baptême de l'Esprit qui a fait ça. Puis, il ne faut pas non plus dire qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des rôles différents, non. C'est qu'on est tous égaux, on fait toute partie du corps de Christ au même titre, là. Il y a pas on est des membres chacun pour sa part, on est membres du corps de Christ, puis on est tous un rôle important, on n'est pas plus important l'un que l'autre, on est égaux, puis peu importe notre rôle, on a des rôles différents, puis même selon les dons, on a des rôles différents. Mais c'est tout important, on a été formés, puis le Seigneur ne voit pas de différence pour cette unité-là qu'on est dans le corps de Christ. L'œil ne peut pas dire à la main, parce que tu n'es pas un œil, tu n'es pas du corps. Puis c'est ainsi de suite. On fait tous partie par le baptême du Saint-Esprit. On a été formés un seul corps, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Fait que c'est important c'est ça l'unité de l'esprit ici, là. Ensuite de ça, il nous dit un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Donc, il y a un seul Père. Il n'y en a pas deux. Il y en a un seul Dieu et Père. Fait que, voyez-vous que ces sept choses-là qui forment l'unité de l'esprit, c'est des choses qui sont intouchables. Nous, on ne peut pas changer ces choses-là. C'est des choses qui ont été mises là en place pour Dieu, par Dieu. Puis nous, on ne peut pas changer ça. Mais il nous faut s'ajuster à cette unité-là. Il nous faut reconnaître cette unité-là. Puis ceux qui viennent parmi nous, est-ce qu'ils voient le Père quand les gens viennent dans notre assemblée locale? Est-ce qu'ils vont pouvoir voir le Père? C'est quoi qu'ils vont voir de notre réunion, de notre rencontre ensemble? Dans 1 Corinthiens 14, 24, 25, il dit, mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Voyez-vous, dans la fonction de l'Église locale, si la fonction se fait selon la tête, par la puissance de l'Esprit, qu'est-ce qui va arriver? C'est quoi qui va devenir évident? C'est que Dieu est au milieu de nous. Puis est-ce que c'est ça qu'on démontre? Parce qu'il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est en tous et parmi tous. Est-ce que c'est ce qui devient évident quand on est réunis ensemble au nom du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que c'est ça qu'on démontre? Ça, c'est important. Ça doit être vraiment évident parmi nous. Puis d'être près du Christ, là, et d'être sous son influence, ça va nous donner un grand désir pour le Père. On va aller dans Jean 14, un moment. Dans Jean 14, quand le Seigneur Jésus parlait avec ses disciples avant de partir, il était dans l'intimité avec eux dans la chambre haute, puis il leur parlait, donnait ses instructions. Dans le verset 7 du chapitre 14 de Jean, il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Voyez-vous le désir, en étant près du Seigneur Jésus, le désir de Philippe ici, il dit, montre-nous le Père, ça nous suffit. C'était ce qui était important dans sa pensée à ce moment-là, à cause de ce que le Seigneur Jésus avait dit. Puis, de verset 10, le Seigneur dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc, il lui montre vraiment que c'est lui qui le désir du Père. Il nous pointe vers le Père. Mais le Père, lui aussi, vient faire sa demeure en nous. C'est le même Père. Tous ceux qui sont sauvés par la grâce de Dieu ont le même Père. Dans le chapitre 14 de Jean, et versets 20 à 23, il dit, En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Puis Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te ferais connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, il y a un seul Père, puis c'est ça qui est merveilleux. Mais au verset 7, on revient dans Éphésiens, mais il nous dit ici, Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc, donc Dieu veut que chacun de nous, là, on participe à l'édification de son corps, puis il nous a tous et chacun, il nous a tous équipés par sa grâce. Puis les dons de l'Esprit sont distribués à chacun pour l'édification du corps, puis qui provient du sacrifice de Christ pour délivrer les captifs qui étaient esclaves de Satan, pour les libérer afin qu'ils puissent servir le Père. Puis c'est ça qu'on voit dans les versets 8 à 10 ici, là. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs. Avant ça, on était dans nos péchés, on était esclaves de Satan. Et étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Alors, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc, on voit ici, c'est des dons d'esprit qui ont été distribués pour l'édification du corps, mais ça provient du sacrifice de Christ. Étant descendu, il est monté aussi dans les hauteurs, puis il a pris des captifs. On était avant ça des serviteurs de Satan. Maintenant, on est devenu captif du Seigneur Jésus-Christ pour le servir. Puis ça, c'est important. Mais une chose qui est importante de comprendre ici dans la liste, parce il y a différents endroits où il y a des listes des dons de l'Esprit pour l'Église. Mais ici, on voit que ces dons-là, ici, c'est des dons qui sont en rapport avec l'Église universelle. Je veux qu'on regarde, c'est l'Église universelle qui est en vue ici. Parce que si, quand il nous dit ici, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, ben c'est certain que dans les églises locales, ils n'ont pas tous des apôtres puis des prophètes. Parce que c'était des dons du Nouveau Testament pour, dans le fondement de l'Église, pour, puis ces dons-là étaient donnés pour l'Église universelle. Ces dons-là sont encore profitables pour nous aujourd'hui. On en a encore besoin. Mais leur ministère, c'est les apôtres et les prophètes, c'est qu'il est écrit pour nous dans le Nouveau Testament. C'est eux qui nous ont donné le Nouveau Testament qui est utile pour l'Église universelle. Puis, on n'a pas besoin d'avoir un apôtre dans notre Église locale. On a l'Écriture qui nous vient des apôtres et des prophètes. Les instructions que le Seigneur nous a données, l'Église est fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Mais on profite de leur ministère. Puis, en lisant la parole de Dieu, on a leurs instructions. Ils nous sont donnés dans le Nouveau Testament. Ensuite de ça, il nous parle des évangélistes. Puis, quand on regarde les évangélistes, pasteurs et docteurs, on peut voir là-dedans le modèle qu'on voit dans les actes, là, puis dans les épîtres aussi, que Paul et ses aides, les autres qui étaient des gens qui étaient envoyés par le Saint-Esprit, comme Barnabas et Saul, et qui est devenu Paul, bien, ils étaient envoyés pour faire l'œuvre du Seigneur. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Bien, les évangélistes, qu'est-ce qu'ils vont? Puis aujourd'hui, on a encore des évangélistes. Qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, ils vont aller dans un endroit. Ils vont prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Quand les gens sont sauvés, bien là, ils ont besoin d'être rassemblés. L'évangile, elle ne doit pas s'arrêter. Quelqu'un est sauvé, puis il reste tout seul. Mais il faut que ces gens-là soient rassemblés. Puis pour qu'ils soient rassemblés, on sait quand nous autres, on a été sauvés, on a été rassemblés. Il y avait peut-être déjà une église locale qui existait. On a été ajoutés à cette église locale-là dans un but, c'est de grandir, puis de, comme il nous dit ici, là, pour l'édification du corps de Christ. Mais on voit dans le Nouveau Testament, puis ça se fait encore aujourd'hui, quelqu'un va aller dans un endroit prêcher l'Évangile. Quand les gens sont sauvés, bien là, ils ont besoin des pasteurs et des docteurs. Les pasteurs et des docteurs, les pasteurs, c'est ceux qui vont les aider dans leurs difficultés. Puis c'est certain que des nouveaux convertis, ils vont avoir beaucoup de difficultés. Il y a un grand changement qui arrive dans leur vie. Il y a des choses qui étaient présentes dans leur vie maintenant qu'il faut que ça change à cause de leur nouvelle vie. Puis, ils ont besoin des soins d'un pasteur, là. Ils ont besoin des soins de. Puis, le mot pasteur, ce n'est pas nécessairement la définition qu'on en donne dans l'Église, mais c'est des gens qui ont ce cœur de berger. C'est des gens qui étaient peut-être comme des missionnaires avec ce don de berger qui allaient prendre soin, qui allaient aider les brebis qui étaient nouvellement sauvées dans leurs difficultés pour les amener à pouvoir gérer leur situation pour qu'ils deviennent plus comme ce que le Seigneur veut qu'ils soient. Puis les docteurs, mais les docteurs, c'est ceux qui vont leur enseigner la parole. Peut-être que quelqu'un peut avoir le don de. C'est rare qu'un évangéliste ait le don de prendre soin, puis d'enseigner la foi ou l'enseignement de la parole de Dieu. Lui, il prêche l'évangile, puis quand les gens sont sauvés, il continue. Puis c'est comme ça, faut qu'il continue, parce que puis là, vient derrière lui des gens, on le voit comme Paul, il y avait des aides qui allaient dans les différentes églises pour aider ces gens-là, pour les instruire, puis prendre soin de leurs besoins, pour les diriger dans leurs besoins. Donc, c'est pour ça qu'on voit qu'ici que c'est vraiment des dons qui étaient donnés à l'Église universelle. Mais ces pasteurs-là et ces docteurs-là qui arrivaient dans ces églises-là, ils étaient là, comme Paul envoyait Tite ou Timothée, pour qu'ils établissent des anciens ou qu'ils pointent du doigt les anciens, ceux que le Saint-Esprit avait mis sur eux pour être les anciens. Donc, il fallait qu'il y ait un certain développement de cette église locale-là. Puis, à un moment donné, ben, Tite et Timothée, avec les instructions des apôtres, reconnaissaient ceux que le Saint-Esprit avait établis pour être anciens, prendre soin du troupeau. Eux, ils les pointaient du doigt, ils leur montraient qui étaient leurs anciens, qui avaient été établis par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Puis ensuite de ça, ils partaient, ils allaient ailleurs pour continuer l'œuvre. C'est comme ça que l'Évangile s'est propagé dans le monde, dans le temps des apôtres, puis des prophètes. Dans le Nouveau Testament, on voit qu'il y a des églises partout qui ont commencé, puis ils ont été aidés pour pouvoir faire. Puis ça, c'était l'œuvre du Saint-Esprit ici. Puis dans Actes 20, 26, 28, on voit que c'est le Saint-Esprit qui avait établi ces anciens-là, puis eux, ils le reconnaissaient. Paul, il disait aux anciens d'Éphèse dans Actes 20, au verset 26 à 28. Regardez qu'est-ce qu'il disait ici. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau, là, il parlait aux anciens, à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Donc vraiment, ils allaient là, ils faisaient leur travail pour, puis les anciens, c'était des gens de l'endroit qui avaient été sauvés, qui avaient maturé, puis qui maintenant, le Saint-Esprit les avait établis pour être anciens, pour prendre soin du troupeau. Puis là, ben, Paul, lui, il s'en allait. On sait qu'à ce moment-là, il s'en allait pour aller vers le supplice, mais il avait déjà fait son travail. Donc, ça, c'est important. Dans le verset 12, c'est pour le perfectionnement des saints, c'est l'agencement de chacun, qu'on avait parlé de ça la semaine passée, l'agencement de chacun pour qu'ils puissent fonctionner ensemble selon la pleine capacité de chacun. Mais le verset 13 nous dit, c'est quoi l'importance? C'est jusqu'à ce que soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Regardez au verset 14, ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Voyez-vous, on voit ça aujourd'hui, là. Il y a des vents de doctrine, puis si on n'était pas des enfants, on ne serait pas flottant, puis on ne serait pas emporté à tout vent de doctrine. Si on était vraiment établi sur le fondement du Seigneur Jésus-Christ, qu'on était vraiment centré sur la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, on serait pas emporté à tout vent de doctrine. Warren Wiersbe, il dit un théologien, c'est un homme aveugle. C'est une citation de Warren Wiersbe, il dit, un théologien, c'est un homme aveugle qui est dans une chambre obscure, qui cherche un chat noir qui n'est pas là, puis il le trouve. Puis c'est ça, on voit que dans la théologie, il faut faire bien attention parce que, puis on voit que ça nous divise aujourd'hui. Mais c'est quoi vraiment, c'est d'être dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Moi, j'avais dit à quelqu'un une fois, j'ai dit, si tu lis la parole de Dieu, tu n'iras pas dans des fausses doctrines. Parce que jamais que la parole de Dieu, puis jamais que l'Esprit de Dieu va nous diriger dans des fausses doctrines avec sa parole. C'est quand c'est les hommes qui amènent des doctrines. Puis ça semble, si on n'est pas bien fondé sur la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, on va être emporté comme des enfants flottants, on va être emporté à tout vent de doctrine. Puis, mais au verset 15, il dit, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. Jamais perdre de vue le Seigneur Jésus-Christ. Puis au verset 16, il dit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Fait que je m'arrête là. On est rendu quand même à moins 10. Ça fait que je vous donne la possibilité de reprendre votre micro. Si vous avez des commentaires ou des questions, je vous donne la parole. Puis si jamais vous avez de la difficulté à prendre votre micro, faites-moi signe. J'essaie de vous redonner de temps en temps la possibilité de le prendre.
J'aimerais revenir sur un verset qu'on vient de lire dans Éphésiens pour voir si j'ai bien compris, naturellement. Alors, c'est dans Éphésiens chapitre 4, verset 8. On va aller au verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc, la grâce, c'est que Dieu nous fait grâce de nous accorder un don selon son bon vouloir. Puis le don est différent à chacun, peut en donner plus à d'autres, moins à certains. Ça ira pour ça?
Je pense qu'ici, la distinction, quand il dit selon la mesure du don de Christ, c'est que Dieu, comme on voit là, dans la suite, c'est que c'est lui, il a donné des dons à l'Église. C'est ces hommes-là qui sont donnés comme dons à l'Église, puis ils sont donnés comme à l'Église universelle. Je pense, dans les autres passages, comme dans Romains ou dans Corinthiens, on voit que c'est des dons donnés à l'individu. Mais si c'est le don de Christ, le Christ ressuscité, il a fait des dons à l'Église, de ces captifs-là. Puis c'est pour l'édification c'est en vue de l'Église universelle, ces dons-là ici qu'on voit.
Je continue verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans la hauteur, c'est-à-dire retourné au ciel. OK. Il a amené des captifs, c'est-à-dire ce que nous étions avant, étant libérés maintenant. Donc, nous ne sommes plus captifs.
Mais dans un sens, c'est comme quand il y avait il allait conquérir les conquérants, il allait conquérir, il amenait des captifs avec eux. Puis c'est ça, le Seigneur Jésus nous a amenés. Maintenant, on est rendu captifs de Christ.
OK, c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, encore une fois.
Gérald,
Oui.
on doit bien se rendre compte que les divisions des assemblées, c'est surtout basé sur des théologies ou des doctrines. Notre interprétation de ces théologies ou de ces doctrines peuvent différer. Mais je remarque, en tout cas, c'est une observation, je ne sais pas si vous avez la même, mais ceux qui interprètent la parole de Dieu littéralement ont bien moins de chances de s'égarer que on dirait aussi qu'on a une facilité à s'entendre avec d'autres assemblées qui sont différentes de la nôtre, mais qui ont une doctrine qui est plus saine, qui est plus littérale. Parce que quand on interprète vraiment la parole de Dieu, puis on lui fait dire, tu sais, on est comme, le mot manque, là, mais on...
À notre façon.
Ouais, ben, pas juste à notre façon, mais on lui donne une interprétation qui n'est pas littérale, justement, ben, on s'égare plus facilement que si on lui donne... Si on le prend mot à mot.
Exactement, parce que si on prend d'une façon, le prendre de façon, si le sens littéral fait du sens, cherche pas un autre sens. Puis, mais si on commence à dire qu'on prend ça comme au figuré, ben là, on peut faire dire n'importe quoi là, à la parole de Dieu. Puis c'est ça, c'est là qu'on voit beaucoup. Il va dire, ouais, mais ça ne veut pas dire ça, ça veut dire, c'est au sens figuré. Mais si on prend au sens littéral, c'est certain que l'interprétation littérale de la parole de Dieu. Puis ça m'est arrivé déjà, comme avec des témoins de Jéhovah, les autres, ils font ça beaucoup. Ils vont dire, ouais, mais les gouvernements, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire. Puis où ils changent les termes. Puis moi, j'avais discuté une fois avec un, j'ai dit, on va discuter, mais à condition que les termes veulent dire ce qu'ils disent. C'est leur signification. Puis en fait, quand on n'a pas eu de discussion, parce qu'il y, y a pas. C'est comme si j'avais enlevé toutes ces armes, toutes ces. Ouais. Parce que là, lui, il voulait me dire que les mots ne voulaient pas dire nécessairement ce qu'il voulait dire. Mais là, j'ai dit, les mots sont là, ils veulent dire ce qu'ils veulent dire. Puis on va les prendre au sens littéral. C'est vrai, c'est l'interprétation littérale des Écritures. Puis souvent, dans les doctrines, c'est ça, on prend au sens figuré des choses par rapport au millénium, par rapport à toutes ces choses-là. Fait que là, on peut dire n'importe quoi, là. On est emporté à tout vent de doctrine.
Je veux revenir sur les dents. On voit que les dents, c'est Dieu qui les a données à l'Église. Ces dents, ils se manifestent parmi le peuple de Dieu. Et ils ne se manifesteront pas en dehors du peuple de Dieu. Ils peuvent
Non,
se manifester pour évangéliser, mais le don va se reconnaître parmi le peuple de Dieu.
ouais, c'est ça, parce que c'est important, ça aussi, c'est un point important, parce que Dieu agit à travers son Église, qui est son corps. Puis comme tu dis, oui, l'évangile, il va aller, mais c'est Ralph Schalis qui disait qu'un évangéliste, c'est comme un compas. Puis il dit, il y a un pied, il y a un point dans l'assemblée, puis avec l'autre, il couvre un rayon pour aller chercher des gens. Mais puis j'ai toujours aimé cette interprétation, cette illustration-là d'un évangéliste. Puis c'est vrai que si un évangéliste, il va probablement avoir de la difficulté à être bien ancré dans une assemblée, puis se soumettre aux anciens qui sont dans l'assemblée. Mais s'il ne le fait pas, qu'est-ce qu'il va faire avec ses convertis? Il y a besoin de l'assemblée pour prendre soin de ceux qui sont convertis. Ceux qui l'ont amené au Seigneur, bien, il faut qu'il les amène à l'assemblée pour que l'assemblée prenne soin dans tous les dons de l'assemblée. Puis lui-même pouvoir exercer son don, lui-ci, dans l'assemblée.
Amen.
Le compas.
Ouais.
Ah oui, les dons sont donnés pour l'Église.
C'est ça, c'est pour l'utilité commune, même les dons personnels, les dons qu'on a dans. C'est comme si le Seigneur me donne à l'Église. Que ce soit à l'Église universelle ici ou à l'Église locale, ou pour nous autres, ou ce qu'on fait partie de l'Église locale, si j'ai le don de. Quand on parle au don, là, si j'ai le don de générosité, ben, je serais pas. Ou le don de faire des dons, c'est pas pour moi-même, c'est pour les autres, mais le don d'enseigner, c'est pour les autres. Tous les dons. Puis quand Paul parle dans 1 Corinthiens 14, il parle du don des langues, il dit tu t'édifies toi-même. C'est comme une rhétorique, là, ça fait pas de sens parce que tous les dons sont faits pour les autres. C'est toi qui es donné à l'Église pour servir l'Église.
Je reviens à Daniel, la question, Daniel. Les dons du Saint-Esprit, ils viennent seulement le jour de la nouvelle naissance. Mais avant de connaître le Seigneur, nous avons des talents qui ne sont pas des dons.
Exactement. C'est vrai. Parce que oui, on a des talents naturels, mais les dons de l'esprit, ce n'est pas des talents naturels, c'est des gratuités. C'est des choses que le Seigneur nous a rendus capables spirituellement par sa puissance, puis sa direction, à accomplir ces choses-là, des choses qu'on n'aurait pas faites auparavant. C'est un petit peu comme quelqu'un disait, c'est comme dans l'armée. Là, tu viens pour t'engager dans l'armée, puis il dit, qu'est-ce que tu faisais dans le monde? Ben, moi, je chauffais un camion, ben, donne-y une dactylo. Ah non, il dit, je chauffais des camions. Ouais, mais tu chauffais des camions dans le monde à ta façon. Dans l'armée, il faut que tu apprennes à notre façon. C'est un peu comme ça dans le Seigneur. Il faut faire sous la direction de l'Esprit. Notre don, il doit être sous la direction de l'Esprit, en soumission au Seigneur, puis avec la puissance de Dieu. Fait que des talents naturels, on peut les faire. Sans ça, on peut. Si quelqu'un il chante bien, ben, il peut chanter bien sans. C'est ce qu'il faisait. Mais les dons de l'esprit, c'est des choses que le Seigneur nous a données, qu'on n'avait pas auparavant. Mais ils viennent de l'esprit, puis ils sont sous la soumission, sous l'autorité du Seigneur, par la puissance de Dieu.
Mais on peut dire aussi que le Seigneur peut utiliser un talent qu'on a. Par exemple, quelqu'un qui est musicien peut facilement accomplir son don qui est peut-être naturel, mais aussi le mettre au service du Seigneur.
Oui, tu peux le mettre au service du Seigneur en autant qu'il prend pas le il ne devient pas dominant au-dessus du Seigneur. Il faut qu'il soit pour élever le Seigneur.
Bien sûr.
Pas pour se lever et dire, hey, c'est un bon musicien. Puis là, s'il prend toute la place, mais à un moment donné, où est-ce qu'il est le Seigneur là-dedans? Là? C'est juste que. Ouais,
Oui, l'endroit, c'est des spectacles.
c'est ça, ouais.
Ouais.
Exactement.
Vraiment,
Mais si mon don doit toujours, ou même mon talent, comme tu dis, oui, c'est vrai, j'ai un talent, mais il doit vraiment élever le Seigneur Jésus dans notre milieu pour que quand les gens viennent, ils disent que Dieu est réellement au milieu de vous, là.
J'ai envie de faire une petite remarque par rapport à ce que j'ai vu, j'ai entendu des jours à l'Assemblée. Tantôt, tu as mentionné qu'au ciel, tout le monde va être dans l'unité.
Exactement.
Et puis, à Cochir, on avait dans ce temps-là, j'étais jeune, il y avait des personnes âgées, puis ils se taquinaient beaucoup. Et puis, il y en a un des deux qui a dit: une chance qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du
Du
pape.
pain. Mais ça revient à dire, c'est une diversité dans l'harmonie.
Oui.
Ils sont tous dans la même maison.
Y a plusieurs demandes.
OK, notre temps est arrivé. C'est qu'on va. On va terminer par un mot de prière, puis c'est comme on dit toujours, s'il y en a qui veulent jaser encore, on peut jaser, mais sinon ceux qui doivent partir pourront le faire. Seigneur notre Dieu, on te remercie. C'est sûr, Seigneur, que toutes ces choses-là, c'est parfois ça va contre notre entendement, ça va contre notre désir, mais tes voix ne sont pas nos voix. puis nos voix ne sont pas tes voix. Seigneur, puissions-nous vraiment se soumettre au Père des Esprits. Toutes ces choses-là qui sont l'unité que toi tu as fait, Seigneur, on ne peut pas la changer, mais on doit la reconnaître et la pratiquer. On te demande que tu nous aides à se juger, Seigneur, chacun de nous, afin de regarder si vraiment en nous il y a quelque chose qui divise ton corps. Puis on le confesse devant toi, Seigneur, puis on veut vraiment se soumettre à la tête, au chef que tu nous as donné, le Seigneur Jésus, par la puissance de ton esprit, pour te reconnaître, toi, comme le seul Dieu et Père. On te rend grâce pour toutes ces choses. Merci pour tous ceux qui sont présents. Bénis chacun, Seigneur. Puis on te demande de prendre soin de Ruth aussi, qui est peut-être encore malade. On te demande d'avoir ta main sur elle pour l'aider à se remettre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen.